Europe 1, il est 7h.
When the president finished the visit, he apologized for what had taken place.
Une fois la visite finie, le président s'est excusé. L'après-coup de sang d'Emmanuel Macron à Jérusalem, qui évidemment rappelle celui de Jacques Chirac. Pas de préméditation sur le chef de l'État.
L'Organisation mondiale de la santé se prononcera finalement aujourd'hui sur le virus en Chine. La ville d'où il est parti a été mise sous cloche.
5 Français portés disparus au Canada. La glace a cédé sous le poids de leur motoneige dans un secteur non balisé.
Nous, on connaît bien les endroits, tout ça. On ne se serait pas aventuré dans cet endroit-là.
Dans ce journal aussi, le capitalisme et la course au profit en question à Davos. Et une tendance, connaissez-vous la biophilie des plantes et des animaux qui s'invitent dans nos entreprises? Ça devient un argument pour les futurs recrues et un enjeu de performance pour les patrons.
Ah oui, je suis convaincu qu'ils travaillent mieux parce que par définition, des salariés engagés sont des salariés plus productifs. On l'a mesuré, hein, c'est qu'on n'a pas de départ à la concurrence.
La biophilie, enquête Europe 1, à suivre.
Europe 1, 7h01, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Il y avait Do you want me to go back to my plane? Il y a maintenant Everybody knows the rules. Une phrase dans un anglais presque francisé. Un président en colère dans la vieille ville de Jérusalem. Hier, l'histoire s'est répétée.
Après Jacques Chirac, c'est donc Emmanuel Macron qui s'en est pris aux forces de sécurité israéliennes. Adrien Beck y était pour Europe 1.
La journée avait débuté par un petit accrochage entre forces de sécurité françaises et israéliennes devant la basilique Sainte-Anne, territoire français. Alors quand Emmanuel Macron, quelques heures plus tard, arrive sous le porche, cohue, des policiers israéliens pénètrent dans la bâtisse, éclate alors une altercation avec leurs homologues français. Emmanuel Macron hausse le ton.
I don't like what you did in front of me. Go outside. Nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep.
Ce genre d'incursion arrive régulièrement, le président pouvait s'y attendre, dit un bon connaisseur des lieux. Alors comme pour minimiser, le chef de l'État lui-même, après coup, a voulu revenir sur l'épisode.
Après, j'ai salué les deux membres de sécurité, on s'est serré la main chaleureusement, les choses étaient oubliées, voilà. Il n'y a pas de préméditation parce que je pensais que ça se passerait bien, c'est un peu le jeu et la parenthèse a été refermée.
Aucune volonté de surjouer, donc pourtant, assure un officiel déjà présent en 1996, il s'est mis dans les pas de Chirac, il voulait son moment Chirac, il l'a eu. Jérusalem, Adrien Beck, Europe 1.
Pas de préméditation, assure donc Emmanuel Macron, qui s'est même excusé, selon le porte-parole de la police israélienne, Mickey Rosenfeld, qui est aussi revenu sur l'incident hier.
À l'église Sainte-Anne, les forces de sécurité françaises et israéliennes ont discuté des modalités pour entrer dans l'église. Le président français a demandé à ce que les règles régissant le lieu soient respectées et selon des modalités qui avaient été discutées avant, un garde de l'agence de sécurité israélienne et un policier ont escorté le président français et sa délégation à l'intérieur. Quand le président a fini la visite, il s'est excusé pour ce qui s'était passé et il a serré la main des deux agents qui étaient avec lui et la visite s'est poursuivie.
Les explications du porte-parole de la police israélienne au micro Europe 1 de Clotilde Mravko.
Israël où Emmanuel Macron participera aujourd'hui aux commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, en présence également d'une quarantaine d'autres dirigeants venus du monde entier.
17 morts désormais en Chine, mais l'Organisation mondiale de la santé a décidé de se donner un peu de temps hier soir pour se prononcer sur cette épidémie qui s'est déclarée le mois dernier.
Bonjour Eric D'Ortenzio.
Bonjour.
Vous êtes médecin épidémiologiste à l'INSERM. L'OMS a salué les mesures très très fortes prises par la Chine hier, à savoir la suspension des transports ferroviaires et aériens au départ de Wuhan, où est apparu le virus. Ça peut être suffisant comme mesure pour stopper la propagation?
Alors effectivement, c'est une mesure très forte qui a été prise par les autorités chinoises, qui a été même approuvée par l'OMS lors de la conférence de presse. Ça va limiter la circulation des personnes, donc c'est une mesure qui va probablement réduire la diffusion du virus à travers le pays. Maintenant, il va falloir continuer les investigations et appliquer d'autres mesures de prévention. Mais en tout cas, oui, c'est une mesure forte qui a été prise.
Alors l'enjeu pour l'OMS, hein, c'est de dire si oui ou non il faut décréter une urgence de santé publique de portée internationale. Ça voudrait dire quoi si elle était décrétée?
Ça voudrait dire que l'OMS prendrait la coordination de tous les États pour répondre à cette épidémie internationale et pourrait donc donner des recommandations à chacun des pays membres de l'OMS pour justement éviter la propagation dans les pays. Donc c'est un peu prendre un peu le contrôle sur la coordination et les décisions sur cette épidémie.
Voilà, prendre le contrôle sur l'épidémie, alors que c'est vrai que pour l'instant, les mesures appliquées le sont un peu en ordre dispersé par chaque pays. Merci pour ces explications en direct, docteur D'Ortenzio, médecin épidémiologiste à l'INSERM. Ce sont deux procès dont les débats de fond ont commencé hier aux États-Unis. Dans le procès de Donald Trump, d'abord, l'accusation a dénoncé une tentative de tricherie du président pour décrocher un second mandat.
Et puis, il y a le procès d'Harvey Weinstein. La procureure a dénoncé le comportement de prédateur sexuel du producteur qui, selon elle, ciblait des femmes naïves et sans défense.
Europe 1, il est 7h05.
Les recherches se poursuivent au Canada pour tenter de retrouver 5 Français portés disparus depuis hier au cours d'une excursion dans le nord du Québec. La glace d'un plan d'eau a cédé sous le poids des motoneiges sur lesquels ils avaient pris place. 3 de leurs camarades ont pu donner l'alerte. Récit des faits avec Mathieu Bock pour Europe 1.
Les touristes circulaient à bord de plusieurs motoneiges en compagnie de leur guide, un homme expérimenté de 42 ans, originaire de Montréal. Pour une raison qu'on ignore, le groupe a quitté le sentier balisé et s'est aventuré sur une partie où la glace est beaucoup moins épaisse. Pour Gaëtan Gagné, le président du club des motoneigistes du lac Saint-Jean, c'est une aberration d'être passé par là.
On connaît bien les endroits, tout ça. On ne se serait pas aventuré dans cet endroit-là. Là. Tu vois de l'eau là, aux alentours, ça ne gèle jamais au complet. Il y a toujours un remous du courant. Ça ne gèle presque pas. Là.
La veille du drame, lors de son périple, le groupe avait passé la nuit dans l'auberge de Christine Rees, à plus d'une centaine de kilomètres de là.
En santé, des jeunes joyeux qui étaient contents d'être ensemble. Ce soir-là, ils nous avaient invité ma serveuse à manger avec elle, en fait, tellement qu'ils étaient contents d'être ensemble et attablés ensemble.
Après avoir donné l'alerte, les 3 rescapés ont été transférés à l'hôpital où leur état n'inspire désormais plus d'inquiétude.
Les incendies en Australie, on l'apprend ce matin, ont fait 3 nouvelles victimes, 3 personnes tuées dans l'accident d'un avion bombardier d'eau qui s'est écrasé au sud-ouest de Sydney, cette zone confrontée à une recrudescence des feux.
Les pluies devraient cesser dans les prochaines heures sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, toujours en alerte rouge inondation. Hier, près de 1900 personnes ont été évacuées.
À moins de 2 mois du premier tour des municipales, la division plus que jamais en marche à Paris, comme vous l'annonçait Europe 1 hier soir, le dissident Cédric Villani risque désormais une exclusion du parti présidentiel. Explication pour Europe 1 de Jean-Rémy Baudeau.
La question fait débat depuis des mois au sein de La République En Marche. Au moment même où Cédric Villani annonçait sa candidature dissidente à Paris, Benjamin Griveaux, pourtant défié, parvenait à convaincre le parti de ne pas exclure son rival marcheur, l'espoir d'un ralliement. Le temps passe et les mauvais sondages changent la donne. À la minute où Villani déposera sa liste, il se placera contre le président, défie désormais un cadre à l'REM. Ce sera à lui de choisir, rajoute Stanislas Guérini, patron du parti majoritaire. Fini donc les mains tendues. La ligne rouge semble être proche. Si Cédric Villani dépose une liste sans se mettre en retrait de LREM, il sera exclu. S'il ne le fait pas, je le ferai pour lui, jure un membre de la direction. Hier soir, Cédric Villani fustigeait une telle menace. « Ça n'est pas dans l'ADN d'En Marche », explique le candidat. Son entourage enfonce le clou. Une telle sanction serait contre-productive. Plus d'un électeur sur deux de Villani ne voterait pas Griveaux, persifle un proche du mathématicien. À moins de 2 mois des municipales, la guerre semble déclarée entre les 2 frères ennemis à Paris.
Et notez bien ce rendez-vous. 7h40 ce matin, je reçois Agnès Verdier-Molinier qui dirige l'IFRAP. C'est un think tank, un laboratoire d'idées dédié à l'analyse des politiques publiques. L'IFRAP publie en exclusivité sur Europe 1 et dans Le Point un palmarès des villes les mieux gérées et les moins bien gérées, évidemment, du pays. Impôts, dettes par habitant, investissements. Vous allez peut-être reconnaître votre commune à 7h40 sur Europe 1 tout à l'heure.
Le Sénat a dit oui hier soir à la PMA pour toutes, tout en conditionnant le remboursement de la procréation médicalement assistée à des critères médicaux.
Et votre journal qui se poursuit dans un tout petit instant, du profit au développement durable. Nouvelle valeur clé pour les entreprises et les salariés. Nous sommes à Davos aussi dans quelques secondes.
À 7h10 sur Europe 1, le journal se poursuit. Marion Calais, Mathieu Béliard.
Et écoutez ce débat, vaste débat, qui s'invite à Davos au Forum économique mondial, celui de la raison d'être des entreprises.
C'est une prise de conscience, en quelque sorte, dans les milieux économiques. Bonjour Nicolas Barret.
Bonjour Marion.
Votre éclairage éco en direct donc de Davos, où chacun prend conscience que le profit ne doit plus être le seul objectif des entreprises.
Oui, le sujet revient dans toutes les conversations. Le capitalisme ne peut pas se limiter à une course sans fin au profit. Les entreprises ont une responsabilité beaucoup plus large vis-à-vis de la société. Les salariés ne doivent plus être considérés uniquement comme des employés, mais comme des stakeholders, comme on dit en anglais, autrement dit des parties prenantes. Et les entreprises ne peuvent pas se contenter de satisfaire leurs actionnaires. Elles doivent être exemplaires vis-à-vis, bien sûr, des salariés, de leurs clients et plus largement de l'environnement dans lequel elles se trouvent. Elles ont une responsabilité sociale qui va bien au-delà de leur strict rôle économique.
Et c'est aussi, Nicolas, une manière de s'adresser aux jeunes, et notamment aux jeunes diplômés.
C'est une tendance mondiale. Les chefs d'entreprise constatent très pragmatiquement sans doute que pour recruter les meilleurs diplômés, eh bien, il faut faire envie, offrir du sens, être inclusif, comme on dit. Le patron d'Uber me disait hier, par exemple, que c'était devenu un critère essentiel pour recruter les meilleurs talents. Bruno Le Maire a relayé aussi ce message à Davos. Le capitalisme doit être refondé, a-t-il dit, doit être plus juste, plus durable, ce sont ses termes. Moins de profit, plus de sens, voilà la tendance qui émerge, notamment auprès d'une jeune génération très sensible au thème du développement durable et de la lutte contre le dérèglement climatique.
L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins de cette semaine, en direct du Forum économique mondial de Davos.
Et pour aller plus loin, justement, sur cette quête de sens et de valeur des jeunes générations, enquête ce matin sur une tendance qui peut s'avérer déterminante pour les futurs salariés, la présence de plantes vertes ou d'animaux dans les entreprises.
Et c'est vous qui avez enquêté, Virginie Salmen, bonjour.
Bonjour.
On appelle ça la biophilie, et ça a un vrai impact sur le business.
Oui, alors c'est pas juste un aquarium ou un plant de tomate posé dans un couloir, hein, ce sont plein de petites choses qui créent un cadre global. Par exemple, quand on entre dans ce cabinet de conseil parisien, Listen To, on se croirait dans un appartement de jeunes en colocation. Il y a un canapé dans l'entrée, un baby-foot et un système d'aquaponie. Je vous explique, c'est un meuble aquarium avec des poissons, et juste au-dessus des étagères de plantes comestibles, menthe, basilic, capucine, les excréments des poissons et l'eau du bassin vont alimenter les plantes via une pompe. Eh bien, ça peut paraître ridicule comme ça, mais c'est un critère déterminant pour 83% des futurs salariés au moment de l'embauche. C'est une étude de l'ESSEC qui l'a mesuré. La végétalisation de l'espace de travail, c'est même déterminant pour près de 30% d'entre eux. Pour eux, ce sont des preuves que l'entreprise est engagée, donc pour l'environnement effectivement et la qualité de vie au bureau.
Moi, j'aime bien me reposer sur le canapé et profiter des petits poissons et de la végétation. Et ça m'aide à décontracter, à diminuer mon stress.
Moi, j'ai ronflé dans le canapé la semaine dernière en écoutant le bruit des poissons de l'eau.
Le système d'aquaponie, hein, c'est pas gratuit, c'est un investissement de 3000 euros par an. Mais le jeu en vaut la chandelle pour le PDG Christophe de Boisgelin.
Ah oui, je suis convaincu qu'ils travaillent mieux parce que par définition, des salariés engagés sont des salariés plus productifs. On l'a mesuré, hein, c'est qu'on n'a pas de départ à la concurrence.
Et là, je vous parle d'une entreprise de 120 salariés, mais l'aquaponie, ça se fait aussi chez L'Oréal ou chez Aéroport de Paris.
Alors, des plantes au bureau, un aquarium, ça paraît pas si dingue. En revanche, il y a des entreprises où là, il y a carrément un animal.
Oui, alors pas forcément un chihuahua d'ailleurs. Dans la PME d'événementiel que dirige Benjamin Stetten-Pigas, WeMatch, il y a carrément un gros chien, un bouvier bernois. Pour ses 27 salariés, la pression au quotidien est forte et le chien amène de la douceur, surtout en période de conflit.
Un chien, s'ils sont des collaborateurs, se frotter un petit peu ou être tendu entre eux, nous, notre chien, il aboie. Et donc, ça permet aux collaborateurs de redescendre un petit peu et de mettre de la distance.
Voilà. Je retiens l'idée. Alors, quelques réunions qu'on peut avoir de temps en temps. Alors, la cohésion par les plantes et les animaux, franchement, Virginie, c'est du gadget, cette tendance à la biophilie, ou c'est une vraie méthode de management?
Ah, le chien, l'aquaponie avec les poissons ou les plantes comestibles, c'est le nouveau team building. Ça fédère les équipes, ça réduit l'absentéisme. Comme ça a été le cas pour le saut à l'élastique, le paintball ou les escape games entre salariés.
Merci Virginie Salmen, c'était l'enquête du journal de 7h pour Europe 1. Dites-nous un petit peu, parce qu'effectivement, on a beaucoup dit que les jeunes s'intéressaient à l'action des entreprises aujourd'hui avant de les intégrer, l'action globale, mais en interne, est-ce que justement vous avez remarqué des évolutions dans votre open space? Est-ce qu'on adopte un chien pour la matinale d'Europe 1?
Pourquoi pas?
Non, pourquoi pas, essayons, mais après il faut le sortir.
Les animaux, les plantes, la cohésion d'équipe et pourquoi pas aussi les bonnes bouffes, ça aussi, on pourrait l'adopter. On va faire découvrir d'ailleurs ce matin une version pour le moins étonnante des rillettes. Version eau de vie.
Ah
c'est
bon,
la distillerie du sonneur au Mans qui la dévoile ce soir. Petit avant-goût, corsé avec François Coulon pour Europe 1.
On a mis 20 kilos de rillettes à macérer dans 20 litres d'alcool à 96 degrés. C'est une première mondiale. Tout le monde en veut.
Il se définit comme le géo-trouve-tout de la goutte. C'est en croisant un charcutier sartois qu'Emmanuel Vuitton a décidé de distiller des rillettes. Dégustation en avant-première hier soir.
L'alcool a déjà bien pris le goût des rillettes. On a vraiment un produit un peu... Ça va être super, je pense. Peut-être un apéro avec des radis et du beurre salé. Sur une salade, ça peut très bien fonctionner. Je ne sais pas si ça va révolutionner la gastronomie, mais en tout cas, on aura un produit pas si farfelu qu'il en a l'air. C'est pas si fou.
Il manquait le verdict d'un chef, François Ricordo, restaurant L'Épicurieux.
On sent la rillette, quoi. On est dedans. Il y a le feu, quoi. Ouais. Parce que 96 degrés, quand même, je trouve ça vraiment original. J'adore ça. Moi, ça me donne des idées, même dans un dessert. Je partirais sur du chocolat. Un petit croquant au chocolat avec une glace à la rillette, eau de vie de rillette, je pense que là, ça va être super bon. Ça va faire un peu un Bailey rillette, vous voyez, je pense que ça va être pas mal.
L'eau de vie de rillette, facturée 40 euros le litre, pourrait séduire des chefs étoilés. Le Mans, François Coulon, Europe.
Allez, petite dégustation.
Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein.
Ah oui. En santé.
Oh, c'est fort.
Les bronzés font du ski il y a 40 ans, évidemment. L'eau de vie de rillette, tiens, petit sondage autour de la table. Mario Calais, apparemment, a déjà essayé.
Juste avant d'entrer dans ce studio.
La Nicée Midane, on
laisse tenter.
Sans moyen de tenter.
Je passe mon tour.
Je voudrais avoir une pensée pour nos auditeurs qui ont regardé leur bol de céréales droit dans les yeux là pendant le sujet de François Coulon. Merci beaucoup. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h17.